Bonjour à tous, à chacun, à chacune. Nous nous mettons à présent à l'écoute de la parole. Et comme je le dis, mon privilège, c'est de sortir le masque. Alors, si on peut projeter la première diapositive. Nous allons lire ensemble un récit qui est bien connu, qui se trouve dans Marc 9, versets 14 à 29. Ce récit de Marc est bien connu et il n'est certainement pas le seul à relater cet épisode. Matthieu et Luc l'ont aussi relaté. Et en fait, visiblement, d'après les commentateurs, Matthieu et Luc ont repris la base du texte de Marc et l'ont simplifié. C'est Marc qui le développe finalement presque le plus, même certainement le plus. Lorsqu'il revint envers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. » Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » ? « Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Lorsqu'ils revinrent... Non, je pense que c'est le... Voilà. La suite... Normalement, je dois pouvoir la passer d'ici, mais je vous ferai signe. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Ce récit nous projette ce matin dans l'univers du doute. Je vais vous faire signe pour passer la diapositive. Le doute. Et nous allons parcourir ensemble ce sujet ce matin. Juste avant cet épisode, on était au contraire dans l'univers de la certitude. Je lis quelques versets dans le chapitre qui précède. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus, seul, avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda « de ne rien dire de ce qu'ils avaient vu à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Et c'est ce moment très particulier de la Transfiguration où Pierre, Jacques et Jean ont une révélation qui les fait entrer dans une toute autre dimension. Ils ont de Jésus désormais, ces trois disciples, une image très très différente. La divinité de Jésus se révèle progressivement. Et leur vision est en train de s'élargir. Jésus se situe bien dans la lignée des plus grands. Élie, Moïse. Et les disciples réalisent qu'ils suivent un maître qui est bien plus important qu'ils ne l'imaginaient. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors vous imaginez le choc quand ils descendent avec Jésus dans la montagne, encore tout remué de ce qu'ils viennent de vivre, et que là ils tombent sur la dure réalité. Et quelle est cette réalité ? Une discussion où ça parle fort. En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. En rejoignant cet attroupement, Jésus a très bien vu les scribes et sait très bien qu'ils ne lui veulent pas du bien. Quelque temps auparavant, la guérison du paralytique, l'accusation de faire des miracles le jour du sabbat, ils ne sont pas là véritablement pour positiver. Et nous sommes au cours de la deuxième année du ministère de Jésus, environ, et l'opposition est en train de monter à son encontre, et Jésus le sait, d'où sa question à la foule. Et cette question de Jésus pourrait être traduite ainsi, non pas de quoi discutez-vous, mais de quoi disputez-vous. Parce que ce verbe qui est employé ici, susetheo, convient pour évoquer non seulement une discussion, mais plus un débat, voire une polémique. Et voyez le contraste. Entre quelques heures auparavant la Transfiguration, où Jésus, Moïse et Élie s'entretiennent sur la montagne, paisiblement. Et là, en bas, dans la plaine, on discute, on dispute, et c'est bruyant, et c'est de la cacophonie. Voilà le contraste des deux moments de cette histoire. On peut changer, et la diapositive... Et nous allons voir qui est confronté à l'échec dans cette histoire. De quoi disputez-vous ? Ce n'est pas la foule qui répond. Ce ne sont même pas les autres disciples de Jésus qui étaient restés pendant que Pierre, Jacques et Jean accompagnaient Jésus sur la montagne. Une personne est plus motivée que tout le monde pour réagir, pour faire entendre sa voix. Une personne qui a intérêt à se faire entendre, tellement elle est sous tension. « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Ils n'ont pas pu. Et ça, c'est un constat d'échec terrible. Quelque temps auparavant, on lit sous la plume de Marc, « Alors, il appela les douze » et commença à les envoyer deux à deux, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades, et les guérissaient. Alors pourquoi, dans ce cas précis, ils n'ont pas pu ? Cette question, elle va devenir un poison pour les disciples, et les miner littéralement. Il n'est d'ailleurs même pas certain qu'ils aient vécu positivement la guérison que Jésus va opérer sous leurs yeux, tout pris qu'ils sont mentalement à leur échec. Et pour mesurer leur état d'esprit, il faut aller au verset suivant, versets 28 et 29 de cet épisode. « Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ? » Ils sont restés mentalement sur ce sujet. Ils viennent de vivre une désillusion pénible. Ils doutent d'eux-mêmes. Ils étaient investis d'une puissance jusqu'à présent, celle de guérir, de chasser des démons. Ils l'ont fait et ils ont remporté des victoires. Et là, tout d'un coup, ils sont renvoyés à leur impuissance. En fait, il me semble qu'ils étaient très centrés sur eux-mêmes au moment où le père de l'enfant les a sollicités. Et au moment où ils posent la question à Jésus, « Pourquoi n'avons-nous pas pu ?», ils sont toujours à l'évidence centrés sur eux-mêmes. Il arrive que nous doutions, nous aussi, de nous-mêmes, comme c'est le cas des disciples ici, et que nous nous considérions comme des serviteurs sans compétence et comme des chrétiens pas à la hauteur en définitive. Comme les disciples, il y a sans doute pour nous aussi bien des circonstances où nous pourrions dire « Je n'ai pas pu, je n'ai pas su ». Déçus de nous-mêmes parce que nous pensions être davantage capables d'agir. Déçus de nous-mêmes parce que finalement nous comptions peut-être davantage sur nous-mêmes, sur nos propres capacités. Et ce don de guérir et de chasser les démons pour les disciples, c'était devenu petit à petit, peut-être, leur don, leur capacité particulière, leur puissance personnelle, en oubliant que l'autorité leur avait été conférée par Jésus et qu'ils n'avaient pas par eux-mêmes le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir. Pourquoi n'avons-nous pas pu ? Or, vous le savez, lorsque Josué est appelé à succéder à Moïse pour prendre possession de la terre promise, lorsque Gédéon, nous l'avons vu récemment encore, est appelé pour délivrer le peuple de l'oppression des Madianites, lorsque les disciples se retrouvent seuls, après la résurrection et déboussolés, il y a à chaque fois une promesse de la part de Dieu. Cette promesse, c'est « Je serai avec vous ». Vous vous sentez faible et inutile, je serai avec vous. Vous ne vous sentez pas capable, je vous équiperai des capacités nécessaires. Et finalement, notre valeur ne dépend pas de ce que nous savons faire, mais du fait que nous sommes inconditionnellement aimés de Dieu, aimés sans condition. Notre valeur, c'est déjà une évidence aux yeux de Dieu. Mais ce qui a de la valeur, c'est ce dont Dieu m'a doté, la façon dont je le mets à son service, et pas à mon service, pas au service de mes intérêts. Seigneur, je n'ai pas pu. Comment ça se fait ? Moi qui me croyais capable, compétent, moi, je. Et que dit Jésus à ce sujet ? Dans Jean 15, versets 4 et 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous sommes déçus de nous-mêmes, sans doute, chaque fois que nous nous prenons pour le cep, alors que nous ne sommes que les sarments. Alors il y a un écueil à éviter. C'est se sentir nul. Jamais dans ce récit, d'ailleurs dans aucun autre, Jésus ne dévalorise ses disciples. Est-ce que vous avez lu une parole de sa part dans l'Évangile qui les rabaisse au point qu'ils ne puissent qu'avoir une image dégradée d'eux-mêmes ? Moi, cette parole, je la cherche encore. Jamais Jésus ne se comporte vis-à-vis des disciples de cette façon-là. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter cette parole qui suit ? « Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» La question qui se pose en premier lieu, c'est celle de l'identité des destinataires de cette apostrophe. Alors les commentaires divergent beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est la foule ? Est-ce que c'est le Père ? Est-ce que c'est les disciples, les scribes ? Mais quand même, dans la logique de ce récit, ceux qui n'ont pas pu agir, ce sont les disciples. Et il est probable que ce cri d'impatience les vise en premier. C'est d'ailleurs la remarque du Père concernant l'échec des disciples qui entraîne immédiatement ces interrogations de Jésus. Et on note aussi, autre élément de contexte, que cette exclamation elle est adressée à un collectif. Il leur dit, et non pas à une seule personne au singulier, comme si le Père lui seul avait été concerné. Donc très probablement, cela s'adresse aux disciples. Mais pour autant, est-ce que ce que Jésus dit disqualifie les disciples? Est-ce qu'ils sont définitivement écartés? Est-ce que Jésus les traite de nuls? Si Jésus avait disqualifié les disciples, il n'aurait même pas répondu à leurs interrogations ensuite, une fois à l'écart de la foule. Comme on le voit à la fin du récit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Ce qui est sûr, c'est qu'arrivé à la moitié de son ministère environ, Jésus manifeste ici une forme d'impatience. Les disciples ont eu tellement de démonstrations de la part de Jésus, de miracles, certes, mais au-delà de ça, d'enseignements de sa part, qu'il est difficile de comprendre que leur foi ne soit pas plus forte. Ils ont pu éprouver des promesses, ils ont vécu beaucoup de choses, et visiblement, ils ne sont pas encore prêts. Et leur foi n'est pas encore assez solide. Et le temps s'écoule, et le temps est en train de s'écouler jusqu'à la croix. Ils ne sont manifestement pas prêts. Alors attention à notre approche de cette réalité, parce que c'est tellement simple aujourd'hui d'avoir un regard un peu condescendant sur cette lenteur des disciples à comprendre. Pour nous garder de cette condescendance, essayons, quand nous lisons les évangiles, de marcher à leur rythme, le rythme des disciples, d'assimiler les événements avec eux, en gardant à l'esprit qu'ils ne connaissaient rien de la suite que nous connaissons aujourd'hui, la mort, la résurrection, l'apparition aux disciples, l'esprit donné à la Pentecôte. Et par exemple, pour nous interroger nous-mêmes, de quelle façon allons-nous regarder ce triple reniement de Pierre au moment où il a dû se sentir bien nul, alors qu'il était plein de si grandes et belles intentions auparavant? Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas, dit-il à Jésus. Et quelques heures après, Pierre s'effondre en pleurs. Est-ce que nous allons, depuis notre hauteur, juger Pierre bien faible, bien lâche? Et sommes-nous si sûrs que nous aurions réagi différemment? Or, nous savons que Jésus n'a jamais écarté Pierre, et au contraire, qu'il a donné un rôle d'une très grande importance dans les années qui ont suivi, quelle que soit l'image dégradée que Pierre avait de lui-même, au moment où il cherchait en définitive à sauver sa peau. Est-ce que Pierre a été traité de nul par Jésus? Est-ce que les disciples ont été traités de nul parce qu'ils n'avaient pas pu guérir? Non. Jésus leur a simplement dit quelque chose de différent, plus de foi, plus de confiance, plus de lâcher prise par rapport à ce dont vous croyez être capable tout seul. Pourquoi n'avons-nous pas pu? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là. Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Et c'est Matthieu, ici, qui relate les paroles de Jésus. Vous comptez trop sur vous-même et pas assez sur ce que Dieu peut faire à travers vous. Nous comptons trop sur nous-mêmes et pas assez sur ce que Dieu peut faire à travers nous. Voilà ce que dit Jésus en définitive. Et ça n'a rien à voir avec nos capacités, car dans ce cas de figure, les disciples avaient été équipés, avaient été armés pour pouvoir guérir et chasser les esprits impurs. Un autre écueil à éviter, c'est ne pas reconnaître nos dons. On l'a vu auparavant, quand Dieu appelle, il équipe. Se sentir nul, c'est penser que l'on est capable de rien, que tout nous manque et que nous n'avons aucun moyen d'agir. Eh bien, les disciples ont bien été équipés de ce don de guérison. Et ce n'est pas l'échec rencontré ici qui remet en cause le fait qu'ils ont été dépositaires de ce que l'on nomme des charismes. Le don de guérison, le don d'opérer des miracles sont des charismes dont les disciples, à la demande de Jésus, ont fait usage. Il s'agit ici des dons spirituels dont Paul a abondamment traité dans sa première lettre à l'église de Corinthe, église d'ailleurs pour laquelle cette question des dons spirituels était une sacrée source de conflit. Mais nous sommes aussi équipés de ce que l'on appelle les dons naturels. Nos capacités, nos talents, nos aptitudes. Et ces dons, ce n'est pas simplement des médailles accrochées à nos vestes dont nous pourrions tirer orgueil. Ce sont plutôt des outils que nous sommes appelés à utiliser pour qu'ils servent. Quels qu'ils soient, ils ont un rôle à jouer, une utilité dans notre environnement. Ils ont une vocation, surtout à ne pas rester cachés. Souvenons-nous de la parabole des talents. D'abord, ils ont une utilité pour l'Église à laquelle nous appartenons, ces dons naturels. Ils ont aussi une utilité pour le monde auquel nous appartenons. Et ils ont aussi une utilité pour nous, car ils nous permettent de nous responsabiliser dans leur usage. Et nous avons alors, dans notre assemblée aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom pour n'oublier personne, une multitude d'exemples de l'utilisation de ces dons naturels. Ils sont là pour le service, et reconnaissons-les. Reconnaissons chacun pour nous-mêmes en quoi nous pouvons les mettre à disposition de l'Église. Oui, l'écueil à éviter, c'est sans doute de ne pas reconnaître nos dons. Alors, j'ai dit au début, ce récit de guérison et de délivrance, il nous situe clairement dans l'univers du doute. Doute des disciples quant à leur capacité à exercer leurs dons spirituels, doute sur leur vocation, mais aussi doute du père de l'enfant que Jésus va délivrer. Et je vais terminer par là. Du doute à la foi. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant en larmes s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alors j'aurais pu ce matin centrer toute mon attention sur ce passage, et ce passage seulement du récit de Marc. Et il aurait pu illustrer à merveille ce sujet de la foi et du doute. D'ailleurs, on peut se demander où en est vraiment le père de l'enfant. Ce « je crois, Seigneur », est-ce que c'est une réponse un peu pressée à Jésus qui le reprend juste avant et qui dit « si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Oui, je crois, je crois. Ils n'ont pas pu, tes disciples. Si tu peux, toi. Ça, c'est sa deuxième et dernière chance d'obtenir ce qu'il est venu chercher, la guérison, la délivrance de son fils. Il tente le tout pour le tout, et moi, je peux imaginer, nous pouvons imaginer sa souffrance et son attente, sa volonté de sortir d'une situation qui est insupportable et qui dure depuis longtemps, depuis l'enfance. Oui, il désire que ça cesse, car le quotidien, c'est une horreur. Il veut en sortir, c'est incontestable, comme un bon père, et il fait le maximum pour ça. Toutefois, je relève que contrairement à d'autres passages, d'autres situations dans les évangiles, ce « je crois Seigneur » suffit en général et débouche souvent sur « ta foi t'a sauvé » de la part de Jésus. Ici, il y a un terrible aveu de sa part. « Je crois et aide-moi, car je ne peux pas vraiment croire. Viens au secours de mon incrédulité. » Alors, peut-être en a-t-il trop vu dans sa vie, peut-être il est au bout du rouleau, peut-être il n'a même plus la force de croire, peut-être a-t-il peur d'être déçu une fois encore, car j'imagine qu'il a essayé des solutions pour sortir de là. Et à cet instant précis, il est sur une ligne de crête très étroite. Je crois, je veux croire, mais si tu me laisses seul, je ne pourrai pas croire. Et qu'est-ce qu'il dit en quelque sorte ? Viens me chercher, viens me chercher. Et c'est un combat intérieur, en larmes, nous dit le texte, à propos du Père. Je suis persuadé que dans cet univers du doute que le Père traverse, il y a aussi, oui, cette crainte d'être encore une fois déçu. Et Jésus a pris en compte ce combat intérieur du Père et son état. Celui peut-être, ce matin, où l'un ou l'autre d'entre nous se trouve. Seigneur, si tu ne m'aides pas, j'en suis pas capable tout seul. Alors, ce qui doit résonner au moment où ce récit se termine, ce sont surtout ces paroles de Paul. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ainsi, la foi vient de Dieu. Dieu appelle, Dieu suscite notre réponse et Dieu sauve. Et passer du doute à la foi, finalement, c'est finalement ne pas résister à l'appel qui vient de sa part. Lui faire confiance. Ce « je crois » craintif du Père, il est accompagné d'une crainte vis-à-vis de lui-même. Mais alors, en reconnaissant son incapacité quelque part, il s'ouvre à un changement possible, il ne résiste plus et il choisit de faire confiance. Le chemin de crête est très étroit. En conclusion, la foi n'est jamais exempte de doute, jamais exempte d'interrogation. En revanche, la foi et le scepticisme n'ont rien en commun. Être sceptique, c'est douter de tout par principe. Je doute de tout. Croire, au contraire, c'est accepter de ne pas douter de tout. Croire, c'est choisir de faire confiance à Dieu, c'est aussi choisir d'essayer de mieux le comprendre et le connaître. Et c'est enfin choisir d'obéir à ce qu'il me demande. Faire confiance, comprendre, obéir. Et croire, c'est s'engager, en quelque sorte, même si les questions demeurent. Alors pour les disciples qui ont rencontré l'échec, croire, c'est aussi accepter de remettre en perspective les dons qu'ils ont reçus et de comprendre qu'ils ne peuvent se suffire à eux-mêmes, le cep et les sarments. Pour le père de l'enfant, croire, c'est reconnaître sa propre résistance et s'en remettre à Jésus malgré tout. Et enfin, pour nous qui un jour avons cessé de résister à l'appel de notre Créateur, parce que c'est ce qui s'est passé, nous avons cessé de résister à l'appel de notre Créateur, croire, c'est aussi nous nourrir en permanence. Car nous avons fait le premier pas, mais nous ne sommes pas aujourd'hui autosuffisants. Pour autant, souvenons-nous des disciples. Et alors, pour terminer, je peux vous lire un court extrait d'un livre que je vous recommande, dont j'ai croisé la route au moment de la préparation de cette méditation. C'est le livre « Je doute, donc je crois » de Alistair McGrath. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais sur cette idée de se nourrir en permanence, j'ai relevé une petite page que je voulais vous lire en guise de conclusion sur cette méditation, sur le doute. Je me souviens, dit-il, d'une leçon sur l'araignée d'eau lors d'un cours de biologie à l'école. La petite araignée vit dans le fond d'une mare, dans une sorte de petite poche légère qui ressemble à un dé à coudre. Cette poche est percée à sa base, ce qui permet à l'araignée d'entrer. Lorsqu'elle atteint la surface de la mare, elle piège des bulles d'air en utilisant ses poils crochetés. Elle plonge ensuite dans la poche, où elle libère les bulles d'air. Après plusieurs va-et-vient, elle a accumulé suffisamment d'air pour vivre dans sa poche pendant un certain temps, sous la surface de l'eau. Malgré l'environnement qui lui est étranger et hostile, elle peut survivre grâce à la provision d'air du monde supérieur qu'elle a accumulé. Toutefois, il arrive un moment où l'oxygène de cet air vital vient à manquer. L'araignée est alors obligée de se rendre à la surface pour collecter une provision d'air supplémentaire. Sans cela, elle ne pourrait pas vivre sous la surface de l'eau. En tant que chrétien, en déduit Alistair McGrath, nous sommes dans une situation analogue à celle de l'araignée d'eau. Nous vivons dans un environnement hostile et nous sommes alimentés et soutenus par les ressources du monde supérieur. Mais nos ressources doivent être renouvelées, faute de quoi elles s'amenuisent. La vie spirituelle exige un accès continu aux ressources spirituelles. Les va-et-vient réguliers de l'araignée à la surface de l'eau nous rappellent la nécessité d'une communion régulière avec Dieu, afin que nous rechargions nos batteries et renouvelions nos ressources. Amen.